session de théologie à Rimont, le 1er novembre 1991. Septième cours, 15h30. Père Samuel, foi et intelligence.
Alors on va aborder une question qui est à la fois le prolongement de ce que vous avez vu sur la révélation et en même temps un approfondissement de la question de la révélation, puisqu'on va travailler sur la foi et l'intelligence. Mais vous avez vu jusque-là le fait de la révélation. Le fait qu'elle impliquait à la fois la parole de Dieu et la tradition. Ensuite, on va regarder maintenant comment est-ce qu'elle est reçue, la réception de la révélation dans l'homme. Et notre grande question, ça va être de savoir, est-ce que le domaine de la foi, c'est-à-dire ce qui en nous reçoit la révélation, la réception, elle se fait dans la foi. Et la grande question, c'est de savoir, est-ce que ce domaine de la foi, est-ce qu'il a un lien quelconque avec l'intelligence ? Et lequel ? Oui, on va essayer de préciser comment est-ce que, du côté du croyant qui reçoit la révélation, qu'est-ce que vient faire son intelligence ? Est-ce qu'elle lui sert à quelque chose? Est-ce qu'elle l'encombre? Et puis d'abord, qu'est-ce que c'est que cette intelligence? La foi, si vous voulez, la compréhension de la foi, elle nous est presque donnée par la foi. C'est-à-dire que le don de la grâce, on ne sait qu'on reçoit... Vous voyez, quand on reçoit la grâce, on sait qu'on la reçoit. Et du coup, on découvre qu'on est capable de la recevoir. C'est ce qui est tout simple. Non mais c'est tout simple, alors que c'est pas si simple, on le verra, du côté de l'intelligence humaine. Il y a beaucoup de gens qui mettent en doute le fait que la réalité soit la réalité et que le sol sur lequel ils marchent existe réellement, alors que vous voyez, la certitude de la foi m'est donnée à l'intérieur de la foi. La foi, elle implique sa certitude à l'intérieur d'elle-même. J'ai pas besoin de quelque chose d'extérieur à la foi. Dieu me donne la certitude que je crois en même temps qu'il me donne la grâce. Alors, ça ne veut pas dire que je comprends quelque chose. Hein. Mais étonnamment, cette certitude, elle est même plus forte que ma compréhension. Le don de la grâce et le don de la révélation, je dirais, est un don que Dieu prépare en moi. Il me prépare à le recevoir par la grâce. Et au fond, en recevant la foi, j'ai la certitude que c'est un don de Dieu. Et donc, d'une certaine manière, pour le croyant, c'est parfois plus facile de repérer en lui la foi que l'intelligence. Encore une fois, parce que la foi, elle fait partie de la manière dont il reçoit la parole de Dieu, dont il reçoit la révélation, dont il reçoit la personne de Jésus. Et l'intelligence, il ne voit pas très très bien qu'est-ce que ça correspond. Il ne voit pas très bien où ça se situe. Parce que la foi ne me donne pas une lumière particulière sur mon intelligence. Je peux avoir la foi et ne pas savoir ce que c'est que l'intelligence. Ou si vous voulez, le domaine dans lequel j'entends parler de l'intelligence n'est pas d'abord la foi. L'intelligence, je la connais par où ? Par la science. Par les sciences à la fois humaines et les sciences positives. Les mathématiques me donnent un certain sens de l'intelligence. La logique me donne un certain sens de l'intelligence. Et puis, d'un autre côté, il y a l'art. C'est vrai, l'artiste n'aime pas d'être qualifié de bête. Se réclame de l'intelligence, l'artiste. Donc l'art est un un domaine qui me parle plus directement d'intelligence souvent que la foi. Vous voyez, quand je pense pas, j'essaye de voir en moi ce que c'est que la foi, je pense pas immédiatement à l'intelligence. Si on me parle de l'intelligence, je pense plus à la sphère de la science, au domaine de la science, au domaine de l'art, au domaine de la créativité. Et puis celui qui aime aussi, normalement, aime être intelligent, ou essayer de l'être. C'est l'intelligence affective. Tout ce qui est du domaine de l'enseignement parle à l'intelligence. On va le voir, tout ce qui est du domaine aussi de la recherche de la vérité, la philosophie, ça parle à l'intelligence. Et donc la théologie, très étonnant quand on parle aux chrétiens de la théologie, lui dit ça, c'est les intellectuels. Quand on lui parle de la foi, vous voyez, c'est un autre domaine. La foi, c'est tout le monde. La théologie, c'est les théologiens, c'est une race particulière de gens qui font des sciences, quelque chose d'analogue aux sciences humaines, qui sont très intelligents et qui enseignent. Spontanément, c'est comme ça qu'on situe la théologie par rapport à la foi. Donc, vous voyez, on va voir que le lien entre la foi et l'intelligence va me permettre de répondre au lien entre la foi et la théologie. De facto, il y a dans l'Église une tradition qui s'appelle la théologie. Quel est son lien avec la foi ? Est-ce que c'est un lien facultatif pour certains scientifiques ? Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de la foi ? Est-ce que ça sert de béquille à la foi ? Est-ce que ça sert à défendre la foi ? Oui, à quoi ça sert ? Au fond, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici ? Voilà. Qu'est-ce que le travail de la théologie vient apporter à la foi ? Et c'est important de voir que, pour nous, surtout on est dans un monde où le domaine de la foi, il est souvent mélangé avec le domaine de la croyance. Oui, il y en a qui ont foi en Jésus, mais il y en a d'autres qui croient au Coran, il y en a d'autres qui croient à Bouddha. Vous voyez, le domaine de la foi, on le rapproche de la croyance. Et on a tendance à séparer un domaine qui serait celui du mystère, au sens flou du terme. Tout ce qui est l'absolu au sens aussi flou du terme. Alors ça relève de la foi. Alors c'est très important pour notre vie, mais ça relève, et c'est pas faux, hein, dans une première approche, ça n'a pas grand-chose à voir avec tout le reste là-haut. Peut-être avec l'art, un peu. Et donc la difficulté, elle est pour nous, encore une fois, de situer, vous voyez, la révélation. Surtout que le problème de la révélation, c'est qu'elle se sert d'une parole. Et la parole, ça s'adresse normalement en partie à l'intelligence. Alors, est-ce que cette parole de Dieu, elle se sert de la... Est-ce qu'il faut que je me serve de l'intelligence par rapport à la parole de Dieu ? Est-ce qu'il faut que je cherche à la comprendre ? Ou est-ce qu'il faut que je cherche d'abord à la recevoir ? Ou est-ce qu'il faut que je ne cherche qu'à la recevoir ? Qu'il faut que je la répète indéfiniment sans chercher à la comprendre parce que je perdrai mon temps. C'est vrai, c'est important de ne pas perdre de temps sur la parole de Dieu et d'apprendre à m'en servir. C'est pas évident de se servir de la parole de Dieu. Comment le croyant se sert de la parole de Dieu ? Comment il se sert de la tradition ? Le fait que la révélation implique la parole de Dieu et la tradition, c'est une chose, mais qu'est-ce que j'en fais de ça ? Je vois bien que la foi, elle est liée à Dieu. Ça, ça va. Mais qu'est-ce que vient faire la parole de Dieu, la tradition ? Puis tout l'enseignement de l'Église. On a la chance d'avoir un pape qui est très théologien, qui écrit beaucoup d'écrits théologiques que personne ne lit. Non mais vous riez, c'est pas risible. Personne ne travaille les écrits de Jean-Paul II. Oui, c'est dommage. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que c'est un enseignement, et c'est un enseignement qui non seulement est magistral, mais qui est très exigeant. Alors il faut se poser la question, est-ce que c'est normal, c'est-à-dire que Jean-Paul II c'est simplement pour les théologiens, ou les archives de la documentation catholique? Ou bien est-ce que l'enseignement de l'Église, il a un lien avec la foi? Et lequel? Vous voyez, c'est... Donc c'est un peu ce nœud-là qu'on va essayer de comprendre. Alors, quand je vous disais la réflexion sur le lien entre la foi et l'intelligence touche aussi mon lien entre la foi et la théologie, ça touche évidemment mon lien entre la foi et la catéchèse. Parce que la catéchèse, c'est où? Est-ce qu'au fond, le mystère qui m'est révélé est tellement insondable que je perds mon temps à essayer de l'expliquer, que donc il suffit que je témoigne de ma foi, et puis que je fasse des jeux, et que je raconte des histoires aux enfants pour le reste du catéchisme? Ou bien est-ce que l'inverse, c'est-à-dire que j'ai à essayer de leur démontrer des choses, comme on leur apprend à rentrer dans la logique des mathématiques? Ou est-ce que j'ai à leur enseigner la catéchèse comme on fait de l'histoire? C'est-à-dire que je vais faire de l'histoire simple comme on fait de l'histoire de France, en leur racontant le début, la Genèse, où je commence à Moïse, c'est pas grave. Vous voyez, et je vais me servir d'un modèle de l'histoire. Comment je fais la catéchèse? Vous allez me dire, comme on peut. Mais c'est tout le problème. C'est que précisément, les enfants, ils viennent plus au catéchisme parce qu'on fait que comme on peut. Et pas comme on doit. Il faut se demander, vous voyez, là, qu'est-ce que c'est la catéchèse? Est-ce que c'est avoir uniquement un lien avec la foi, ou est-ce que la théologie a un lien avec la catéchèse? Est-ce que ça veut dire que tous les théologiens doivent devenir catéchistes? Ou peut-être l'inverse, c'est-à-dire que tous les catéchistes doivent devenir théologiens? Vous voyez, c'est la même question. Tout ça, c'est lié. Et puis c'est vrai, au-delà de la catéchèse, c'est vrai dès qu'on a à ouvrir la bouche pour rendre raison de notre foi. Dès qu'on a à répondre à une question qui touche notre foi. Est-ce qu'au fond, il vaudrait mieux pas se taire? C'est vrai, c'est une question qu'on doit se poser. Souvent, d'ailleurs, de temps en temps, les gens nous disent « Vous feriez mieux de vous taire. » Parce qu'avec ce que vous venez de me dire de l'Évangile et de Jésus et de l'Église, ça me donne tout sauf envie d'y croire. C'est un peu dur, hein, mais la question, il y a quelque chose de juste là-dedans. Est-ce que je ferais mieux de me taire? C'est évident que pour parler du mystère, si je suis vraiment lucide, vous voyez, c'est vrai que j'aurais la tentation de me taire. Et pourtant, Saint-Pierre nous interdit de nous taire. Il nous dit qu'on doit être capable de rendre compte de l'espérance qui est en nous. Alors, comment on fait? Vous allez me dire, l'Esprit Saint nous aidera. C'est vrai, mais il ne nous aidera pas sans nous. J'ai beaucoup de dames catéchistes qui demandent tous les jours à l'Esprit Saint d'être éclairé, et ça n'empêche que les enfants n'écoutent pas. Non, mais vous riez, mais c'est vrai. Ça ne suffit pas de demander à l'Esprit Saint. C'est indispensable, mais ça ne suffit pas. Donc comment est-ce que, vous voyez, comment ensuite je vais coopérer? Est-ce que mon intelligence, elle doit coopérer à la foi? Et comment? Voilà, ça c'est la question. Le premier travail, ça va être de repérer ce que c'est que l'intelligence, évidemment. Pourquoi? Parce que, étonnamment, si la foi... J'ai presque envie de dire, j'en ai une connaissance affective du fait même du don de Dieu. Et donc j'ai une certitude de la foi. J'ai la certitude d'avoir la foi, du fait même que je l'ai. C'est pas pour autant que je la comprends. C'est ça qui est pas facile. Vous voyez, je sais que je l'ai. C'est ce qu'on voit de très beau dans les martyrs, qui n'ont pour seule défense que l'affirmation du fait qu'ils sont chrétiens. Ils ne sont pas capables de discuter théologiquement avec le juge. Pas nécessairement capables. La seule chose qu'ils sont capables de dire, c'est qu'ils sont chrétiens et qu'ils ne peuvent pas être autre chose. Mais ça montre bien que la foi, elle contient sa certitude, mais ce n'est pas pour autant que je suis capable de l'expliquer ou de la comprendre. Donc, ne pouvant pas comprendre immédiatement la foi, il faut que j'essaie du côté de l'intelligence. Puis après ça, on verra si on y voit plus clair. Et c'est important de voir, vous voyez, que si je ne pars que de la foi, j'avance pas. Je pourrais que dire que j'ai la foi, point, c'est tout. Et il y aura une certitude subjective, mais je serai incapable de la communiquer, incapable d'en rendre raison, et même incapable de la faire grandir en y coopérant, si vous voulez, ou bien ça grandira tout seul avec la grâce de Dieu, mais je ne serai pas capable d'y coopérer. Donc il faut que je travaille du côté de ce que je comprends, ou du côté de ce que je suis capable de comprendre, c'est-à-dire l'intelligence. Ce qui est moins amusant, parce que apparemment c'est moins vital pour moi que la foi. La foi, c'est lié à, vous voyez, j'ai présenté, c'est lié à notre vie. L'intelligence, réfléchir sur l'intelligence, vous voyez, tout de suite j'ai l'impression que c'est abstrait. Et donc il va falloir que j'essaye de découvrir. Il y aurait deux manières de réfléchir sur l'intelligence. Ou bien de faire l'inventaire de toutes les formes possibles d'intelligence. C'est-à-dire l'inventaire de toutes les sciences. C'est d'étudier dans chacun des développements scientifiques comment est-ce qu'on se sert de l'intelligence. Tous les usages de l'intelligence. Si vous faites aujourd'hui la liste des sciences humaines ou de ce qui se prétend sciences humaines, ça fait beaucoup. Les sciences positives, il y en a aussi un certain nombre, mais s'il fallait parcourir tout, vous voyez, tout le domaine scientifique, pour être capable de rassembler tout ça, pour saisir ce qu'il y a comme dénominateur commun, ça prendrait énormément de temps. Et donc il faut que j'essaye de comprendre l'intelligence dans son exercice le plus habituel, le plus commun. Que j'essaye de la découvrir comme capacité de connaissance. Et que j'apprenne à travers les formes de connaissances qui sont les miennes, de manière quotidienne. On a tous des formes de connaissances affectives, quand on porte un jugement sur quelqu'un. Enfin, quand on estime qu'il nous plaît ou qu'il ne nous plaît pas. Ça, c'est un jugement affectif, c'est une connaissance affective. On a tous des formes de connaissances pratiques, quand il s'agit de réparer une voiture, de faire la cuisine ou de langer un enfant. Ça, c'est la connaissance pratique. On est capable aussi de tout un type de connaissance d'accumulation, les informations. On est capable d'emmagasiner quantité d'informations, de renseignements, d'idées. On est capable de recevoir un enseignement qui ne porte pas directement sur la réalité, mais qui porte sur la théorie. Et tout ça, ça implique un dénominateur commun, ça implique une capacité de connaître. Et puis de manière encore plus simple, mais tellement simple que souvent on ne s'en aperçoit pas. Bon, il y a la capacité de connaissance artistique aussi, esthétique, dont on se sert tout le temps. Enfin, on est dans un monde qui s'en sert tout le temps. Dès qu'on a à nous communiquer quelque chose aujourd'hui, on se sert d'une médiation esthétique, artistique. Et j'irai à l'intersection de toutes ces formes de connaissances, il y a quelque chose de très fondamental, qui est ma capacité, tout au long de ma journée, et même de ma vie, d'être en contact avec le réel. Et d'être en contact de manière immédiate avec le réel. Et toutes ces formes de connaissances dont je vous ai parlé, elles impliquent des médiations, des intermédiaires. La connaissance affective, elle implique présentement comme médiation l'affectivité, les passions. Je ne connais pas de manière immédiate, point de vue affectif. Et il y a une estimation affective. La preuve, c'est que vous allez apprécier les gens positivement ou négativement. C'est les grandes divisions affectives, ça. Ça passe à travers votre prisme à vous, à travers votre psychisme, votre psychologie. La médiation pratique. Ça passe par une certaine idée, un certain projet. La connaissance que vous avez de vos poireaux quand il s'agit de les cuire n'est pas la même que la connaissance que vous avez des poireaux quand vous allez les regarder pousser. D'accord ? Il y a un projet entre vous et les poireaux quand il s'agit de les cuire. Et ce qui vous intéresse, c'est de vous en servir pour les cuire. C'est pas d'étudier comment ils poussent. Dans les connaissances scientifiques, ou dans les connaissances des informations, j'en parle pas parce qu'on n'est que dans la médiation. C'est-à-dire que vous n'avez aucun contact direct avec la réalité. Vous voyez, la seule connaissance que vous avez, c'est ce qu'on veut bien vous donner, qui n'est qu'un intermédiaire entre vous et le réel. Vous n'avez aucun moyen de vérification immédiate les trois quarts du temps. Alors que là, vous en avez un, là aussi. Vous pouvez avoir estimé, avoir cru que quelqu'un était insupportable. Et vous apercevoir qu'en fait, c'est vous qui êtes insupportable, mais que c'est lui qui est bon. Et l'expérience peut vous corriger. Le réel peut vous corriger de votre expérience affective, de votre connaissance affective. Ce qui montre bien d'ailleurs qu'il y a une médiation. De la même manière pour votre connaissance pratique. Vous pouviez penser que les poireaux, ça se cuisait comme ça. Et en fait, comme ils sont brûlés, ça ne devait pas se cuire comme ça. Donc vous corrigez votre connaissance pratique par l'expérience, par le réel. Du côté scientifique aussi. Étant donné la loi de la gravitation que vous aviez prévue, vous ne deviez pas tomber. Pour reprendre l'exemple du savon cosignant. Et puis vous êtes tombé. Donc il faut retravailler sur la loi et votre théorie pour essayer de comprendre pourquoi vous êtes tombé. Pourquoi l'équilibre n'était pas le bon. D'accord ? Donc là aussi, en science, vous avez toujours un modèle aussi. Vous avez une théorie. Une théorie, c'est un modèle. Et alors, ce qui est intéressant dans les informations, c'est que les trois quarts du temps, vous n'avez aucun moyen de vérifier. Ce qui occupe le plus notre imagination, souvent, du côté du stock de connaissances, c'est là qu'il y en a le plus, au niveau de la quantité. Mais c'est la connaissance la plus... Oui, fragile et puis la plus infantile, si vous voulez. Parce que précisément, elle ou la moins intéressante, la plus débile, au sens faible, c'est la connaissance la plus faible. Parce que vous n'avez quasiment aucun moyen de vérifier. On vous dit qu'il y a un avion qui s'est... On vous montre des images en vous disant, voilà, ça représente ça, et ça s'est passé au Bangladesh. Ou ça s'est passé au Pakistan. Bon, mais vous y croyez. Vous n'avez aucun moyen de vérification. Sauf quand vous avez l'expérience de l'événement. L'intérêt, c'est d'essayer de voir s'il n'y a pas en deçà de ça, par exemple dans l'expérience de, je vous citais tout à l'heure l'exemple du poireau, de l'admiration. Aristote parle aussi de l'étonnement. Directement par rapport à l'expérience. L'admiration de la fleur, l'admiration de la lumière. Admiration de la neige, admiration de la mer. Où là, vous avez une connaissance qui n'implique comme médiation que la sensation. Alors, ça ne veut pas dire que l'affectivité n'est pas là. Hein. Ça ne veut pas dire que tout le reste n'est pas là. Mais ça veut dire qu'il y a en moi une capacité de connaître qui est encore plus profonde que tout ça. Ma connaissance, elle réclame de dépasser les médiations. Il y a une soif en nous de connaître de manière immédiate. Et c'est ça que oui, l'admiration, elle réveille en nous la soif de connaître de manière immédiate. C'est très étonnant, le scientifique comme scientifique, sauf de sa science, il admire sa science, mais il n'admire pas ce qu'il étudie. C'est un exemple qui était très beau, il y avait une table ronde sur le sujet « La beauté sauvera-t-elle le monde ?» Et on a demandé à un grand astrophysicien de venir parler des étoiles, parce que c'est beau les étoiles. Alors, il a commencé par nous dire, ça a duré deux phrases, que les étoiles c'était très beau. Et puis après ça, pendant 25 minutes, il nous a donné que des chiffres, qui étaient très impressionnants. Mais c'est les chiffres qui étaient impressionnants, c'était plus les étoiles. Vous voyez, c'est typique du passage de l'admiration du réel à l'admiration de la connaissance. Or, l'intelligence a soif directement d'être... je découvre l'intelligence dans la soif que j'ai d'atteindre directement et de connaître directement le réel. Alors, la question, évidemment, qui est une question courante aujourd'hui, c'est savoir est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est pas une espèce de nostalgie ? Au fond, ça voudrait dire que l'intelligence, elle n'existe que sous ces formes-là. Donc au fond, on n'est jamais sûr. Parce que c'est jamais parfaitement fiable, les médiations. Et vous voyez, alors quand il s'agit de la parole de Dieu, ça va être, on va lui faire subir le même traitement. La parole de Dieu, c'est une médiation. Qui est tout aussi dangereuse, vous voyez, vue dans cette perspective, elle est tout aussi dangereuse que les autres. Donc vous voyez, si au fond, j'ai une vision de l'intelligence qui se limite à ça, et j'essaie de faire le dénominateur commun de ça, sans tenir compte de l'admiration. j'affirme qu'au fond, l'intelligence, elle n'est capable que d'une approximation de la réalité. L'intelligence, elle fonctionne toujours à travers des modèles et des médiations et des images et des symboles. Et que ces symboles et ces images sont toujours très approximatifs. La preuve, c'est qu'il peut y en avoir plusieurs. Si j'ai cette vision de l'intelligence, c'est selon cette vision de l'intelligence que je vais parler de la foi. Et au fond, je vais considérer, bah oui, que la foi chrétienne, qui se sert de la parole de Dieu, c'est une des manières. Vous voyez, il y a un certain symbolisme qui lui aussi est pas complètement fiable parce qu'il est en partie, il est complètement humain. La parole de Dieu, c'est entièrement humain du côté de du matériau, parce que c'est des mots, c'est humain les mots. Il n'y a pas de mots divins. Donc dès qu'il s'agit de la parole, alors on verra qu'elle a une inspiration, mais l'inspiration, c'est dans les mots qui sont utilisés sont des mots humains. Quelqu'un qui n'a pas la foi est capable de comprendre l'écriture, même s'il n'accède pas au mystère auquel elle est censée conduire. Il comprend les mots. Et à ce moment-là, vous voyez, la forme de mon intelligence fait que mon intelligence, elle n'est pas faite directement pour le contact avec le réel. Donc au fond, dans toutes ces choses-là, il y a toujours un élément de croyance. J'ai cru qu'il était mauvais. Je me suis aperçu qu'en fait, il était bon. Mais en fait, je m'en suis aperçu. Maintenant, je crois qu'il est bon. Et peut-être que je me réapercevrai par la suite qu'en fait, il était vraiment mauvais. Vous voyez le problème de la connaissance. Est-ce que je sors ? Est-ce que je suis capable de sortir de cette médiation ? Est-ce qu'au fond, il y a toujours un intermédiaire entre moi et le réel ? Ça, c'est la question fondamentale. Hein. Dans le monde d'aujourd'hui, la question fondamentale de l'intelligence, c'est celle-là. Alors, c'est pas commode parce que, inversement, est-ce que j'ai un contact immédiat avec le réel ? Ben, la preuve que non, puisque je peux me tromper. Et que précisément, celui que je pensais qu'il était bon, il était mauvais, et l'autre, c'était l'inverse. Oui, c'est ça qui n'est pas commode, c'est qu'au fond, quelle est ma capacité de rejoindre la réalité ? Là, je vous dis qu'il faut, c'est là qu'il faut s'appuyer, je crois, sur des expériences très élémentaires. Qui est celle de l'admiration, pourquoi ? Parce que, là, vous me direz, l'admiration, elle peut être déjà esthétique. Mais il y a des formes d'admiration qui ne sont pas esthétiques. La surprise, ce n'est pas esthétique. L'étonnement, ce n'est pas esthétique. L'admiration, c'est déjà esthétique. Mais je dirais presque la stupeur de l'intelligence devant, la stupeur de l'homme devant la réalité, le fait qu'il est surpris par la réalité. Ça, c'est immédiat. Et j'ai essayé de comprendre, est-ce qu'au fond, l'admiration, la stupeur, l'étonnement ne me révèle pas quelque chose qui est présent en permanence dans l'homme, qui est une soif et même une capacité de rejoindre directement le réel à travers la sensation. Alors c'est vrai qu'il y a toujours la sensation. Et j'ai à discerner progressivement comment est-ce qu'il y a un domaine de la sensation qui peut me tromper. Il y a un domaine de la sensation qui ne me trompe jamais. J'ai besoin de creuser cette question. Pourquoi ? Parce que si mon intelligence ne peut pas rejoindre la réalité comme elle est, je peux encore moins en parler. Donc je perds mon temps à faire de la théologie, je perds mon temps à lire la parole de Dieu. Il vaut mieux que je me mette dans le silence et dans l'ignorance, autant rester dans l'ignorance complète. Plutôt que de travailler sur des connaissances qui sont de toute façon fausses. Donc j'ai essayé de découvrir, j'ai envie de dire, pour pouvoir coopérer au travail de mon intelligence, j'ai besoin de comprendre si elle est capable de rejoindre directement la réalité ou pas. Aujourd'hui, il y a tout un courant théologique qui dira, mais en fait, l'intelligence n'est pas capable, encore une fois, il n'y a que des médiations. Et ces médiations, elles sont en fait des constructions humaines. Parce que votre affectivité, c'est vous. Votre projet, c'est vous. Les théories, c'est vous aussi. Et les informations, c'est vous. Donc au fond, vous créez vous-même des intermédiaires entre vous et le réel. Et aujourd'hui, il y a tout un courant théologique qui dira, donc vous voyez, le seul moyen de connaître vraiment, c'est la foi. Je ne suis pas capable de connaître. La seule manière de rejoindre la réalité, c'est la foi. Donc le seul qui est dans la vérité, c'est le croyant. Alors, il ne sait pas ce qu'il atteint, c'est pas grave. La seule chose qu'il sait, c'est qu'il sait qu'il est dans la vérité. C'est pas très bien comment, d'ailleurs. Parce qu'au fond, il finit lui-même par douter qu'il est dans la vérité, parce qu'il ne voit pas pourquoi il soumettrait pas la foi au même traitement que le reste. Mais c'est important de voir que, j'ai presque envie de dire, un tout petit décrochage par rapport au réel, ça a des conséquences immenses quant à l'exercice de la foi. Alors la grande question, c'est ça, c'est de savoir quel est mon lien de connaissance avec le réel. Et c'est là qu'il faut essayer de découvrir comment ma capacité de recevoir la réalité, elle n'est immédiate que dans l'expérience directe. Et l'expérience directe, elle est toujours sensible. Je n'ai pas d'expérience qui ne soit sensible. L'imaginaire, ce n'est pas de l'expérience. Hein, dès que je suis de mes rêves, ce n'est pas une expérience de mes rêves. Parce que présentement, c'est qu'après coup, je me rêve, vous voyez, je me vois pas rêvant. Il arrive de faire des rêves éveillés, mais on a du mal à spéculer sur le rêve en même temps qu'on rêve. C'est toujours après coup qu'on rêve. Et donc concrètement, l'imaginaire, c'est pas mon expérience. C'est au sens fort, vous voyez, ça fait pas partie, je dirais, de la confrontation directe de ma personne au réel. Et donc j'ai essayé de découvrir comment est-ce que l'expérience de la connaissance au sens fort, je ne l'ai que dans l'expérience directe, qui implique la sensation. Et même comment dans cette expérience, la médiation de la sensation dans certains cas est reliée à la factibilité et dans d'autres cas est reliée au réel. C'est ce qu'on appelle les sensibles communs et les sensibles propres. C'est une petite distinction assez tout bête, mais ça change tout. Vous savez l'exemple de Descartes. Il dit que les sens nous trompent. Il dit, vous prenez un sage, un théologien, qui a peur ni de la mort, qui sait beaucoup de choses, vous le mettez sur une planche posée sur le sol de 1 mètre de largeur, il n'a pas le vertige, il n'a pas peur. Ensuite, vous le montez en haut d'une tour de 80 mètres et vous le mettez sur la même planche, il a peur. Il a tort parce qu'il est tout autant en sécurité à 80 mètres qu'en bas, puisqu'il fait 1,20 m, il n'y a aucune raison qu'il tombe. Donc, ce qui montre bien que sa sensation le trompe, puisqu'elle lui fait croire qu'il est en danger alors qu'il ne l'est pas. Puis vous avez tous les exemples où on se trompe, c'est quand vous prenez le train et que c'est le voisin qui démarre. Ou quand vous croyez que c'était quelqu'un de que vous connaissiez, et puis quand il se rapproche, vous apercevez que vous ne le connaissez pas du tout. Quand vous croyez reconnaître quelqu'un au téléphone et manque de chance, c'est l'autre. C'est précisément celui que vous ne vouliez pas entendre. Enfin, vous voyez, il y a toutes les possibilités. On voit bien qu'il y a des erreurs. La question, c'est de savoir est-ce que les sens nous trompent systématiquement. Ça, du coup, Descartes en conclut que les sens nous trompent systématiquement. Et Aristote, avant Descartes, avait distingué les deux. C'est-à-dire, il dit, oui, il y en a qui nous trompent. Ce qu'on appelle les sensibles communs. C'est ceux qui sont liés à l'imagination. Alors il dit par exemple, c'est la grandeur. On peut se tromper sur la grandeur des choses. Avec une certaine... Vous voyez, on fait des erreurs de perspective. On peut s'imaginer que quelqu'un est plus grand que la Tour Eiffel, le tout c'est de le photographier du Trocadéro. Tous les Américains font ça. Ils se photographient plus grand que la Tour Eiffel, c'est-à-dire plus grand que les Français. C'est typique, c'est le problème de la grandeur. Donc là, on peut se tromper. Aristote dit aussi, il y a le mouvement. Ça, c'est l'exemple du train. Il y a le nombre aussi. Vous croyez qu'ils étaient qu'un, mais en fait, comme ils étaient tous les uns derrière les autres, ils étaient 20. Ou inversement, ils étaient qu'un, mais ils criaient tellement fort que vous aviez cru qu'ils étaient beaucoup. Donc ça, c'est le nombre. La grandeur... Le mouvement et le repos aussi. C'est lié. On s'imagine qu'on ne bouge pas alors qu'en fait on bouge. C'est vrai, quand on est sur un grand, grand bateau, on n'a pas nécessairement la perception du fait qu'on est en mouvement. Et puis sur là, on ne savait pas qu'on bouge. Jusqu'à Galilée, on ne savait pas qu'on bougeait. Depuis, on sait qu'on est sur une terre qui bouge. On ne sait pas par rapport à quoi, d'ailleurs, mais elle bouge. C'est vrai, parce que pour que ça bouge, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui soit en repos quelque part. C'est toujours relatif, un mouvement. Elle bouge par rapport à quoi? Vous n'êtes pas à l'extérieur de l'univers pour voir la Terre qui tourne. Donc elle tourne par rapport à quoi? Par rapport au Soleil, ça veut dire que le Soleil, lui, ne bouge pas. C'est pas vrai, puisque le système solaire, il tourne lui-même. Vous voyez, il n'y a pas de point fixe, si vous voulez. On n'a pas de point fixe, alors on dit tout bouge. C'est vrai, on est dans une théorie. La théorie, je peux vous montrer la différence entre une théorie scientifique et l'expérience. Dans l'expérience, je sais que tout ne peut pas bouger. Ça n'a pas de sens. Parce que le mouvement, je ne le comprends que par rapport à un point de repos. Donc affirmer que tout bouge, ça n'a pas de sens. Si dans une construction qui fait tout bouger, c'est possible comme construction intellectuelle. Mais ce n'est pas possible dans le réel. Mais ça ne se prouve pas scientifiquement. Ça fait partie d'une expérience. Vous voyez, je ne peux pas le prouver, ça. C'est l'expérience qui me montre que le mouvement, je le comprends qu'à partir du repos. Enfin bon, c'est une parenthèse. Mais c'est important de voir que là-dessus, je peux me tromper. Et là, les scientifiques le savent, hein, c'est pour ça qu'ils n'ont pas peur de remettre en cause leur théorie. Parce que ce dont ils se servent dans leur imaginaire scientifique, c'est essentiellement ces choses-là. Les mathématiques, c'est du nombre, de la grandeur et du mouvement. C'est simple. Toutes les mathématiques, du côté de l'imagination, ça se sert du nombre, de la grandeur, du mouvement, et puis d'une quatrième chose qui s'appelle la figura, c'est-à-dire la structure. L'organisation, la manière dont est construit un tableau, par exemple, dont est construit une maison, l'organisation, la structure de la maison, ça c'est la figura. Là aussi je peux me tromper. À première vue, je croyais que c'était simple. Puis je m'aperçois, en m'approchant de plus près, vous savez, c'est Matisse qu'on avait filmé en train de dessiner un rond ou un oiseau. Alors il traçait ça, on a l'impression qu'il fait ça comme les enfants. Puis ensuite on a passé le film au ralenti. On s'est aperçu qu'il hésitait deux ou trois fois tous les deux centimètres. Ou tous les centimètres. Donc en fait, c'était un geste parfaitement précis et très complexe. Mais on se trompait. La simplicité de l'artiste, c'est une fausse simplicité. Elle est en fait très complexe. Cette simplicité, elle est l'aboutissement d'une très grande construction intérieure. Et donc c'est... Sur ces choses-là, on peut se tromper. Et les exemples du vertige de Pascal, c'est la grandeur. C'est que la hauteur de la tour prend imaginativement le dessus sur la largeur de la planche. Tout. Si vous arrivez à vous convaincre, ce qui se passe, vous savez, les gens qui montent sur les gratte-ciel, si vous avez une affectivité qui est plus sensible à la largeur de la planche qu'à la hauteur de la tour, vous n'avez pas peur. Non mais vous riez, mais comment est-ce que vous croyez que les Indiens tiennent en haut des gratte-ciels à New York sur des choses larges comme ça? Parce qu'ils sont plus sensibles à la largeur de la poutrelle qu'à la hauteur sur laquelle ils sont. Ils n'ont pas tort d'ailleurs. Alors ces sensibles là ils sont très liés à l'imaginaire et à l'affectivité. C'est très simple, vous êtes capable dans les cauchemars et dans les rêves. Ça bouge tout le temps, les rêves. Et quand ça bouge pas, c'est catastrophique, c'est qu'on est en train de se précipiter sur nous, qu'on ne peut plus bouger. Et c'est toujours en mouvement. Et les modifications des sensibles dans le rêve, il est essentiellement en fonction de ça. Là, vous avez de l'autre côté les sensibles propres. Qui sont ceux que perçoivent immédiatement les sens, c'est-à-dire la couleur, le son, le goût, l'odeur. Et ce qui est touché, c'est-à-dire le chaud et le froid, le sec et l'humide, tout ce qu'atteint le toucher. Auquel s'intéresse pour le coup pas du tout la science. Le scientifique ne s'intéresse pas du tout à la couleur, il s'intéresse à la longueur d'onde de la couleur. C'est lui complètement égal, que ce soit du rouge ou du bleu. L'important, c'est qu'il ait pu marquer de quelle longueur d'onde et qu'il soit capable de faire varier les longueurs d'onde. Il ne s'intéresse pas au son non plus, il s'intéresse aux fréquences. Il ne s'intéresse pas au goût, il s'intéresse à l'acidité, au pH. Oui, il ne s'intéresse pas non plus, et encore moins, il ne s'intéresse pas au chaud et au froid. Il s'intéresse à la température, c'est pas du tout la même chose. Le chaud et le froid, c'est l'expérience humaine. La température, c'est la mesure scientifique du chaud et du froid. Or, ces choses-là, c'est étonnant de voir que elles conduisent mon intelligence immédiatement au réel. Alors, évidemment, je ne peux pas les abstraire. Hein. C'est que je ne fais pas l'expérience d'une couleur. Je fais l'expérience d'une réalité colorée. Et cette réalité, elle a une certaine grandeur. Elle a une certaine figura. Donc, je ne peux pas les séparer, mais je distingue. Et c'est important que je vois que, vous voyez, que j'apprenne à repérer le lieu où mon intelligence atteint immédiatement le réel. C'est pour ça que dans certains cas, l'art provoque des états admiratifs beaucoup plus forts que la nature. Parce qu'elle met en lumière la couleur, par exemple. Et elle peut réveiller, l'art peut réveiller l'intelligence beaucoup plus profondément que la nature, dans certains cas. Quand précisément, l'art est capable de mettre en lumière ce qui nourrit directement l'intelligence. Et c'est important, vous voyez, de découvrir cette capacité qu'a l'homme de connaître, de toucher, si vous voulez, pas, de toucher d'une manière qui n'est pas matérielle simplement, de connaître et de connaître de l'intérieur la réalité. Non seulement il est capable de l'atteindre sensiblement, mais il est capable de l'identifier, de lui donner un nom. Et derrière ce nom, il saisit ce qu'est la réalité. Vous voyez, je dirais, il y a une capacité en nous de familiarité avec le réel, de connaissance intérieure du réel. Pas sans la sensation, c'est ça qui est très bizarre, pas sans la sensation. C'est pas en me mettant la tête dans mes mains et en attendant que ça chauffe que j'aurai une intuition intérieure du monde. Je peux pas connaître autrement que par la sensation. Mais mon intelligence dépasse ce que je sens. C'est ça qui est pas commode, on est comme ça. Et il y a en moi une capacité de rejoindre, de lire, ce que dit saint Thomas, il se sert d'Isidore, qui traduit l'intelligence par lire de l'intérieur. Donc il y a une capacité en moi, je dirais, de communier de l'intérieur à la réalité, vous voyez, d'être familier de la réalité. Et connaître au sens fort, ou comprendre au sens fort, c'est ça. Comprendre au sens fort, c'est pas avoir réussi à remplacer la réalité par une idée. Ça, c'est pas une compréhension, ça. Ou c'est une compréhension de l'idée, mais c'est pas une compréhension du réel. La compréhension du réel, c'est précisément quand, on le verra, me servant des idées, me servant de l'abstraction, j'arrive à connaître de l'intérieur la réalité concrète. Alors, le lieu, c'est l'éminent, c'est la personne. Quand j'arrive précisément à connaître quelqu'un, au-delà du fait qu'il me casse les pieds ou que je l'aime bien. Oui, au-delà de ce qu'il évoque en moi, au-delà de ce qu'il provoque en moi. De le connaître tel qu'il est, et pas simplement tel que je le ressens ou tel que je crois qu'il est. C'est important hein, parce que cette capacité, elle est vitale. Cette capacité de connaissance, elle est vitale, c'est-à-dire qu'elle a besoin d'être nourrie. Cette capacité, non seulement de toucher le réel, de le lire de l'intérieur, mais de le faire mien. Ça qui est aussi très bizarre, c'est que cette capacité de connaissance, elle me permet, oui, de faire mien la réalité, tout en la respectant. Quand vous mangez une carotte, vous la faites vôtre, mais vous la respectez pas. Enfin, ça ne veut pas dire que c'est un crime, hein, mais c'est fait pour ça. Mais vous assimilez la réalité en la détruisant. Quand vous connaissez de manière sensible, vous assimilez aussi la réalité. Mais vous l'assimilez de l'extérieur. Vous voyez, je dirais, il n'y a pas de lien immédiat entre ce qu'est la réalité et vous. Vous l'assimilez de l'extérieur. C'est-à-dire que ce que vous assimilez, c'est l'image que vous en avez. Alors qu'il y a en nous une capacité de rejoindre la réalité de l'intérieur dans ce qu'elle est, à travers la sensation. C'est ça l'intelligence. Mais l'intelligence est une capacité à la fois d'accueil et puis d'assimilation, d'appropriation de la réalité, mais d'une appropriation qui la respecte et qui ne la transforme pas. Ou si vous voulez, ça veut dire que l'intelligence est une capacité de communion avec le réel qui est parfaitement unique.
Alors, en ce cas-là, les mathématiques, qui sont quand même une spéculation sur ce qui est imaginaire, est-ce que c'est de l'ordre de l'intelligence ?
C'est de l'ordre de l'intelligence, mais on va revenir sur toutes les autres formes de connaissances, et on va voir que c'est des formes de connaissances dérivées, qui ont leur légitimité, le tout c'est d'être lucide. Sur le fait que quelqu'un qui ne fait que des mathématiques, il finira par tuer son intelligence à l'étape, dans ce cas-là de plus fondamental, s'il ne fait que ça. Et on le sait bien, quelqu'un qui n'est que mathématicien, il finit complètement dans l'imaginaire. S'il n'est que mathématicien. Il faut au moins qu'il soit marié, qu'il ait des enfants pour... Vous savez, c'est l'exemple de... J'ai oublié son nom, ce bon mathématicien qui a fini sa vie fou, qui voulait montrer mathématiquement que Joseph était le père de Jésus. Non mais c'est parfaitement... C'est, je vous assure que c'est vrai. Et c'est vrai que...
Session de théologie à Rimont, le 1er novembre 1991. Huitième cours, 16h30, Père Samuel, foi et intelligence.
Je vous laisserai faire, si vous avez des questions, les noter, et j'y répondrai peut-être plutôt demain matin, pour qu'on puisse avancer un peu. Alors maintenant qu'on a essayé de repérer le lieu de l'intelligence dans la personne et de voir comment est-ce que cette capacité de connaissance est faite pour s'exercer de manière immédiate par rapport à la réalité. Il y a la manière dont on formule, vous voyez, le lieu où cette connaissance, je dirais, apparaît avec la force la plus grande. Cette alliance, si vous voulez, entre les sensations et l'intelligence, entre les sensibles propres et l'intelligence. C'est quand je peux dire ceci est. C'est très bizarre. Quand c'est les sensibles communs qui dominent. Vous dites, il y a quelque chose. Ça, vous êtes sûr qu'il y a quelque chose. Est-ce que ça existe? Vous ne savez pas très bien. Enfin, il s'est passé quelque chose. D'accord? Vous étiez debout et vous vous retrouvez par terre. Il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. De quoi est-ce qu'il s'agit? Vous ne savez pas encore. Vous vous relevez et vous apercevez qu'à ce moment-là, il y avait une plaque de verglas. Là, vous dites, ceci est... c'est important de voir que l'intelligence ne se repose que quand elle peut dire ceci est. Et que quand elle atteint la réalité telle qu'elle est, et pour elle-même. Aristote dit, il y a déjà un repos dans la connaissance des sensibles propres. Il dit dans la perception de la couleur et de la lumière. Admirer, c'est reposant. Mais il y a un repos encore plus profond de l'admiration, que l'admiration et qui ne supprime pas l'admiration. C'est quand, tout en admirant, je commence à comprendre ce que j'admire. Il n'y a pas d'opposition entre admiration et connaissance, du côté philosophique. Et au contraire, plus je connais et plus j'admire, normalement. C'est ça l'éveil de l'attitude contemplative de l'intelligence. Et l'intelligence est faite à ce moment-là pour connaître, vous voyez, elle est un appétit vital de recevoir de l'intérieur la réalité et de chercher dans la réalité ce qui est présentement le plus lumineux. Enfin, lumineux, c'est une métaphore, vous voyez. Mais ce qui est le plus, précisément. Ce qui existe le plus. L'intelligence ne supporte pas de vivre dans l'imaginaire. Oui, elle est faite, c'est pour ça que c'est tout le problème, parce que quand on est dans un monde qui nourrit les médiations, et qui gonfle les médiations, que ça soit celle de l'image, que ça soit celle de l'affectivité, que ça soit celle de la théorie. Quand je vis plus que dans des connaissances médiates, médiatisées, avec des intermédiaires, je finis par mourir d'asphyxie. C'est comme si on vous donnait que de la nourriture en tube. Ça fait perdre le goût de manger que de la nourriture en tube. Parce que c'est déjà, oui, c'est tellement travaillé qu'il n'y a plus rien à, il n'y a plus rien à assimiler, il n'y a plus rien à goûter. Et c'est important de voir que l'intelligence, d'une certaine manière, je ne veux pas dire que c'est ce qui est le plus sauvage en nous, mais c'est ce qui a, vous voyez, le plus besoin de la réalité à l'état brut. Parce que précisément, elle est faite pour saisir la réalité avant toute interprétation. Alors, ça ne supprime pas, vous voyez, je ne peux pas supprimer, je ne peux pas couper, puisqu'il y a la sensation. La sensation, je ne peux pas la couper de l'image, je ne peux pas la couper de l'affectivité. Je ne peux même pas la couper des idées, puisque la théorie, c'est des idées. Les théories, le projet, c'est des idées. Que ça fait naître. Le tout, c'est que cette part-là ne prenne pas le dessus sur ce qui me conduit directement au réel. Vous voyez, là, pour le coup, c'est un problème d'équilibre. C'est que si vous nourrissez l'imaginaire, si vous nourrissez que l'affectivité, si vous n'avez d'habitude, si vous ne vous intéressez aux réalités que parce que ça vous plaît, et si au fond, vous fuyez tout ce qui ne vous plaît pas. C'est-à-dire que vous ne percevez plus les réalités qu'en tant qu'elles vous plaisent. Vous ne les percevez pas telles qu'elles sont. Que vous n'aimiez pas les choux-fleurs, ce n'est pas un problème. Le choux-fleur est un choux-fleur, même si vous ne l'aimez pas. Et les qualités objectives du choux-fleur demeurent. Ou du fromage. Ou du poisson. Vous voyez, il y a une objectivité du goût. Ça ne vous plaît pas, ne dites pas que c'est mauvais. C'est pas mauvais. Vous n'aimez pas. Vous voyez ? Médiation. Vous n'aimez pas votre affectivité, pour des raisons X, Y, Z, fait que vous êtes traumatisé par le fromage. Par le poisson. Et donc, vous n'aimez pas le poisson. Mais ne dites pas que c'est mauvais. Ceci n'est pas mauvais. Par contre, dans certains cas, c'est mauvais. Pour l'homme. Si vous mangez des choses dangereuses, c'est mauvais. Même si ça vous plaît. Ne dites pas c'est bon. Dites ça me plaît. Ça a bon goût. Oui, c'est tout le problème. Alors, évidemment, quand on surdéveloppe l'image, c'est-à-dire que on substitue systématiquement à l'expérience réelle l'image. Vous savez, c'est les enfants, quand vous leur demandez en classe de vous dessiner un poisson, ils vous représentent un poisson pané. Non mais vous riez, c'est pas du tout, c'est tout à fait vrai. Et j'avais un petit neveu, on lui a fait boire du lait, et tout d'un coup il s'est exclamé, mais c'est pas bon, ça a le goût de vache. Pourquoi ? Parce que la médiation, vous voyez, artistique, technique, a complètement gommé le lien avec le réel. Le lait, ça vient pas des vaches, ça vient des packs plastiques. Et le poisson, ça vit pas dans l'eau, c'est dans des boîtes dans le congélateur. Non mais vous voyez, et c'est important de voir que il y a une utilisation, le problème des médias, c'est précisément qu'il n'y a plus de lien avec le réel. Si vous avez des enfants qui savent tout, mais ils n'ont jamais rien expérimenté. Ils sont au courant de tout ce qui se passe dans l'univers, mais ils ne sont jamais sortis de chez eux. Alors, ça a développé toute une forme de connaissance, mais ça a tué l'intelligence. Parce que l'intelligence, elle est faite, c'est ce que disait Merleau-Ponty, elle est faite pour l'être sauvage, elle est faite pour le lien brut avec le réel. Que ça me plaise ou que ça ne me plaise pas. Et avant de savoir si ça me plaît ou si ça ne me plaît pas. Alors c'est pas facile, hein, parce qu'évidemment, c'est pas toujours marrant. Et le lieu privilégié, qui est à la fois le lieu où l'intelligence est présentement face à une réalité qui n'est pas artisanale. Où elle est face à la réalité qui est la plus réelle parmi ce qu'elle connaît, et qui en plus la considère au premier degré, c'est la personne humaine. Et donc si l'objet propre de l'intelligence, c'est la réalité telle qu'elle est, le lieu privilégié de l'intelligence, c'est la connaissance de la personne humaine. Pourquoi ? Parce que la personne humaine, pas parce que c'est moi, vous voyez, c'est pas en premier lieu parce que c'est moi, mais c'est parce que c'est la réalité qui existe le plus parmi ce que j'expérimente. Alors évidemment, c'est aussi la plus complexe. Mais c'est celle qui doit susciter en moi l'attraction la plus grande du côté de l'intelligence et l'admiration la plus grande. Et c'est ce que dira Aristote, comme elle est complexe, il faut que je commence par des choses plus simples. Alors je vais commencer par la lumière, je vais commencer par des expériences plus simples. Par l'expérience du travail, par l'expérience de l'amour d'amitié. Mais je dirais, c'est parce que la personne, dans ce qu'elle est, pas toujours dans sa manière de le manifester, hein, mais profondément dans ce qu'elle est la réalité la plus lumineuse, entre guillemets. Alors après ça, je découvre que c'est parce que l'esprit est présent. C'est par elle que l'intelligence est attirée. Ah oui, je crois que c'est très important de bien saisir, encore une fois, que je ne peux pas séparer ça, mais que le grand enjeu de l'intelligence d'aujourd'hui, c'est que les médiations ne viennent pas m'empêcher de découvrir ce lien immédiat. Vous voyez, parce que s'il n'y a que ces médiations, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je finis par ne même plus, vous voyez, par ne plus croire à ce qui n'est pas de l'ordre de la croyance, qui est de l'ordre de l'expérience. J'en viens à nier ce qui est de l'ordre de l'expérience. Et à me poser des problèmes métaphysiques pour savoir si le mur devant lequel je suis, est-ce qu'il est vraiment blanc. C'est normal à cause du monde dans lequel on est qu'on se pose des questions comme ça, c'est affligeant pour ce qu'est l'homme. Oui, parce que c'est à l'état infra-animal à ce moment-là. L'animal, la couleur, il l'aperçoit. Il ne la remet pas en cause, vous me direz, il ne peut pas, mais... Au moins, il la voit vraiment blanche. Et de venir à douter que je vois ce que je vois, c'est important de voir que c'est grave. Et que surtout, ça supprime, enfin ça, c'est une manière d'empêcher ce qu'il y a de plus vital en moi de se nourrir. C'est pas grand-chose d'avoir faim, si l'intelligence, elle fonctionne. Enfin, si elle fonctionne, si elle est nourrie. C'est-à-dire si je suis en lien avec le réel. Mais je peux être gavé et tout avoir, si j'ai pas l'intelligence, je meurs. Parce que si j'ai pas de lien avec le réel, je peux plus vivre. Alors je meurs pas physiquement, mais je meurs spirituellement et humainement. Alors ensuite, ce qu'il faut essayer de voir, c'est comment est-ce que... Vous voyez, quand on revient sur ces autres formes de connaissances, en fait, ces médiations, quand on s'en sert bien, c'est-à-dire quand précisément, on les rend relatives à la réalité existante. Mais quand cet exercice de l'intelligence, il est pas soumis parce qu'il n'a pas à être soumis, mais quand il est toujours capable de s'effacer devant cet exercice-là, alors il est vraiment humain. L'affectivité, c'est merveilleux, ça peut me conduire à mieux connaître l'autre. Le tout, c'est que je sache que l'autre est plus que ce que j'en saisis affectivement. Oui. Que ce qu'il est plus que ce que j'en connais affectivement. L'image aussi, elle est, c'est évident qu'elle est faite pour me conduire au réel, quand elle n'est pas trafiquée. Que la sensibilité et l'image est faite pour me conduire au réel. L'exemple typique, c'est là. Le véritable art, il est fait pour me conduire au réel. Il n'est pas fait pour le remplacer. Mais je dirais, le signe d'une véritable médiation, c'est qu'elle vous invite à en sortir. C'est fait pour ça. Un médiateur, c'est pas fait pour... C'est un intermédiaire. Un intermédiaire, c'est pas fait pour... Alors, on sait qu'aujourd'hui, dans le domaine économique, c'est les intermédiaires qui prennent tout. Mais c'est la même chose du côté de la connaissance. Même chose, la théorie, c'est la même chose. La science comme telle ne s'oppose pas à ma connaissance du réel. Mais elle est faite pour me faire comprendre une dimension du réel que je n'atteins pas dans l'expérience immédiate. Mais qui ne remplacera jamais l'expérience immédiate. Parce qu'elle ne nourrit pas l'intelligence. Même les idées et les projets, c'est excellent. C'est pas parce que vous faites cuire les poireaux que ça vous empêche d'aller vous intéresser aux poireaux. Au contraire, si vraiment vous apprenez à cuire intelligemment les poireaux, vous allez vous intéresser à la manière dont il faut les cultiver. Parce que vous n'allez pas les cuire de la même manière selon l'endroit où ils ont été cultivés. Et ça ne servira à rien de les cuire à la vapeur si c'est des poireaux qui, de toute façon, ont des propriétés complètement nulles. Ça n'a aucune importance. De toute façon, il n'y a plus rien à moi. Enfin, il n'y a plus rien, oui. Il n'y a plus rien de qualitatif. Donc, c'est important de voir, vous voyez, que ces connaissances, qui sont des connaissances secondes, si vous voulez, des connaissances médiates, dans lequel la médiation est censée coopérer à l'œuvre de l'intelligence et pas briser le lien entre l'intelligence et le réel. Alors, vous voyez, quand on regarde par exemple dans ces connaissances secondes, celle qui est la plus noble, que sont les mathématiques. On s'aperçoit que ce qu'il y a de... Pourquoi est-ce que les mathématiques sont là, du côté de... d'un exercice autre que cette connaissance immédiate du réel, ce qu'il y a de plus noble? Parce qu'ils travaillent sur l'intelligence. Les mathématiques, c'est la manière dont l'intelligence a réussi à construire un modèle du réel qui est le plus conforme à elle-même. Vous voyez, j'ai presque envie de dire, c'est de la matière spiritualisée, les mathématiques. C'est ça qui est très grand dans les mathématiques. C'est que tout le monde matériel a été hissé à la hauteur des mathématiques, à la hauteur de l'intelligence. C'est que vous arrivez à traiter tout le monde de la contingence à travers une logique nécessaire. C'est ça qui est très très puissant dans les mathématiques. Vous rendez compte, vous arrivez avec les mathématiques à organiser un réseau de chemin de fer et à gouverner un pays entier grâce à l'informatique. C'est uniquement grâce aux mathématiques. Enfin, il n'y a pas que les mathématiques, mais je veux dire, la source de tout ça, c'est les mathématiques. C'est ça que vous voyez, les Grecs avaient un très grand sens de ça. Au fond de cette... Je dirais, dans les mathématiques, il y a une interprétation du réel, matériel évidemment. Mais tout le réel matériel a été interprété de manière à pouvoir être utilisé de la manière la plus fine et la plus précise par l'intelligence. Mais c'est ça qui est génial dans les mathématiques. Je dirais, l'intelligence a rendu le monde matériel son propre interlocuteur. Alors que la matière, vous voyez, elle est au contraire, dans l'expérience sensible, ça résiste la matière. C'est pour ça que la philosophie de la matière, ça ne me sert à rien du tout pour construire des trains. Parce que je ne peux pas m'en servir. Je bute contre la matière dans l'expérience. Quand vous avez un accident de voiture, vous voyez bien que la matière, c'est opaque. Tous les calculs étaient bons. Mais voilà, il n'y avait pas prévu la plaque de verglas. Mais c'est bête que la plaque de verglas, ça vous coûte si cher. C'est vrai, c'est de l'eau. Mais c'était pas grand-chose, il suffisait de le prévoir. C'est vrai, c'est un côté, par rapport à l'expérience humaine, c'est un côté exaspérant, vous voyez, la matière, parce que ça résiste à ma connaissance, ça résiste à ma domination. C'est bon d'ailleurs, ça m'oblige à l'humilité. Mais l'avantage des mathématiques, c'est que présentement, elles font tout ce qu'elles peuvent pour dépasser cet obstacle de la matière. En les interprétant, vous voyez, en construisant un modèle qui est à la fois, qui respecte parfaitement la structure matérielle et qui soit, encore une fois, l'interlocuteur de l'intelligence. C'est ce que fait l'informatique, vous voyez, mais l'informatique c'est du bricolage, vous voyez, je sais pas comment vous dire, ça n'a plus aucune noblesse. C'est la différence entre Picasso et les gens qui vous peignent Montmartre, quoi. Mais l'informatique, c'est même pas du sous-produit. C'est comme quand vous voyez les petites statues en plastique qu'on vous vend à Lourdes, par rapport à la Vierge Marie. Pardon pour les informaticiens. Mais le mathématicien, moi je suis pas mathématicien, mais quand on entend parler les mathématiciens de l'informatique, ils vous disent, c'est vrai, ça n'a pas de noblesse. C'est une utilisation bricoleuse du génie mathématique. Alors c'est un côté génial, mais c'est le génie du bricoleur. Il ne faut pas demander à l'artiste de trouver que le bricoleur, c'est génial. Même si le bricoleur est effectivement génial, comme bricoleur. Mais le mathématicien est content de se s'en servir. Hein. Mais il s'en sert comme du téléphone, enfin, c'est un moyen pratique. Vous avez un deuxième domaine de connaissance seconde à l'autre extrême. Donc vous avez les mathématiques d'un côté. Puis vous avez l'art. Qui n'a pas la même noblesse que les mathématiques du côté de l'intelligence. Parce qu'il travaille sur la matière. Et pour le coup, je dirais, l'art, c'est dans la matière qu'elle se réalise l'œuvre. Mais qui a précisément la noblesse de l'incarnation. Enfin, vous voyez, qui a la richesse de l'incarnation, de la matérialisation. Que n'a pas les mathématiques. Ça ne fait rien, les mathématiques. Ça n'a pas d'efficacité. Vous voyez, ce n'est pas le but des mathématiques d'avoir de l'effet. C'est gratuit, les mathématiques. L'art aussi peut être gratuit, mais sa grandeur, elle est dans le fait que l'art correspond à l'homme, il ne correspond pas à l'intelligence. L'interlocuteur des mathématiques, c'est l'intelligence, c'est pas l'homme. Les mathématiques se fichent complètement de l'homme. L'important pour eux, pour les mathématiques, c'est l'intelligence. Ce qu'on demande à un mathématicien, c'est d'être quelqu'un qui a une intelligence extrêmement puissante. On ne lui demande pas d'avoir un sens de la beauté des choses. Ça peut l'aider, mais c'est secondaire. Donc par rapport à l'intelligence comme telle, c'est les mathématiques. L'art, c'est par rapport à l'homme. L'art est une œuvre humaine, pas les mathématiques. C'est pour ça d'ailleurs que les Grecs considéraient qu'elles avaient quelque chose de divin, les mathématiques. Ou d'angélique. Alors que l'art est proprement humain parce que l'art c'est la présence de l'intelligence dans la matière. Mais si la finalité des mathématiques c'est la connaissance, c'est pas la finalité de l'art. La finalité de l'art c'est j'irais d'imprimer, de transfigurer l'univers matériel à l'image de la grandeur de l'homme. C'est ça la finalité de l'art. C'est ça l'œuvre. L'œuvre d'art, c'est ça. C'est quand l'homme fait l'univers à son image, lui-même étant à l'image de Dieu. C'est pour ça qu'elle est petite fille de Dieu, là. C'est étonnant d'ailleurs, l'art n'est pas lié à Dieu comme les mathématiques. C'est par l'homme que l'art est lié à Dieu. C'est pour ça que les mathématiciens, on a l'impression, c'est pas tout à fait juste, hein, il n'y a pas de mathématiques divines, mais ça fait partie des nostalgies du mathématicien, c'est pour ça qu'ils veulent faire de la mystique. Parce qu'il y a une pureté de l'intelligence dans les mathématiques qui sont comme une espèce d'image de la pureté de l'intelligence contemplative. Mais c'est une image, il n'y a pas de lien entre les deux. On ne passe pas des mathématiques à la mystique. N'en déplaise à Jean Guiton. On en reparlera de Jean Guiton. Pas tout de suite. Alors que l'art, vous voyez, les liens entre l'art et Dieu, c'est par l'homme. Et puis il y a une troisième forme, grande forme de connaissance seconde, c'est le jugement, c'est la connaissance affective. Alors le problème de la connaissance affective, c'est pas sa noblesse, c'est pas non plus sa capacité de transformation de l'univers. Mais la connaissance affective a quelque chose de très particulier, pas quand c'est l'affectivité sensible, mais quand c'est la connaissance aimante, c'est-à-dire quand c'est la connaissance à l'intérieur de l'amour. Et la connaissance à l'intérieur de l'amour, elle implique présentement un effacement de l'intelligence. C'est évident que j'aime, je suis fait pour aimer plus que ce que je connais. L'intelligence n'est pas maîtresse de l'amour. Elle ne dirige pas. Et ce qui est impressionnant dans la connaissance affective, et en ça, il y a une alliance entre la connaissance affective, encore une fois affective au sens personnel, au sens de l'affectivité humaine, spirituelle, c'est que c'est une connaissance qui me rend toujours relatif au réel. Vous voyez, le lieu où j'apprends à dépendre dans mon intelligence de la réalité, c'est la connaissance affective. Parce que quand j'aime, je sais, du fait même que j'aime, que l'autre me dépasse. Sinon, je l'aime plus. Sinon, c'est plus un ami. Vous voyez, et vraiment, mon intelligence est toujours obligée de s'incliner devant la réalité, devant l'autre. Et donc, c'est un des lieux privilégiés d'expérience du réalisme de l'intelligence. Parce que je vous disais que l'intelligence est faite pour assimiler, mais le grand danger de l'intelligence, c'est qu'elle cherche à dominer. C'est qu'elle s'imagine qu'elle sait tout. Et c'est précisément la connaissance affective qui lui rappelle son humilité. Vous voyez, pour découvrir ce que c'est que vraiment l'intelligence, j'ai besoin d'un côté de la connaissance affective, de l'autre du jugement d'existence. Pour découvrir la communion, l'assimilation réelle, la connaissance intérieure réelle qui a du réel, et en même temps le fait qu'il me dépasse. Si j'ai que le jugement d'existence, vous voyez, je vais m'imaginer qu'une fois que j'ai dit ceci est, j'ai tout compris. Qu'une fois que j'ai dit ceci est un homme, c'est bon, la question est réglée. Vous voyez, c'est les gens qui aiment les définitions. Alors, comment est-ce que vous définissez ce que vous venez de dire? Alors, une fois qu'on leur a donné la définition, ils la copient, et puis c'est bon. Il n'y a plus besoin de chercher, ils ont la définition. Donc ils savent. Maintenant, je sais ce que c'est que la personne humaine parce que vous m'avez donné une définition qui est vraie. Et inversement, si vous n'avez que la connaissance affective, ça donne une forme d'intelligence qui, au fond, c'est pas vraiment si vous voyez, qui n'a jamais le courage d'adhérer vraiment au réel. Parce que c'est tellement grand le mystère de l'homme qu'au fond, qu'est-ce que c'est vraiment, j'en sais rien. Donc je ne sais pas vraiment si j'aime ni ce que j'aime, mais c'est un grand mystère. On retrouvera ça dans la foi. Vous avez des gens qui... L'important, c'est l'affirmation du credo. Alors, une fois que je récite le credo, j'ai la foi. Puis il y en a d'autres, ça sera l'extrême inverse. C'est-à-dire, non, ça ne sert à rien du tout. L'important, c'est le mystère. Vous adhérez au mystère, vous ne savez pas de quel mystère il s'agit, et c'est un mystère que vous y adhériez. Mais c'est ça l'important de la foi. On verra, c'est pas commode. Hein. Je dirais, le Seigneur est bon parce qu'il nous oblige à... En nous donnant la parole de Dieu, il nous a obligés à ne pas pouvoir choisir l'un ou l'autre. Mais c'est important de voir qu'humainement, les deux choses qui m'éduquent, c'est ce réalisme du contact avec le réel, par la sensation, vous voyez, et le jugement d'existence, et puis cette compréhension, cette découverte que j'atteins l'autre dans mon intelligence plus que je ne le comprends. Vous voyez, dans l'amour, je connais l'autre plus que je ne le comprends. Mon jugement sur l'autre va plus loin que ma compréhension. C'est le nom qui dit ça, vous voyez, le nom que je donne à l'autre. Son nom ne contient pas, vous voyez, c'est plus que ce que je connais. Le nom de quelqu'un, la manière dont je l'appelle, manifeste le fait que je suis dépassé par ce qu'il est. Enfin, c'est pour dire que le développement de l'intelligence et le développement de l'amour sont gardiens l'un de l'autre. Alors, ce qu'on va essayer maintenant, avant de parler, pour se poser la question de voir s'il y a un lien entre... Alors, ce que je peux déjà voir, c'est qu'il doit y avoir un lien entre l'intelligence et la foi. Parce que dans la foi, j'atteins bien quelque chose. J'affirme quelque chose, au moins que j'ai la foi en Dieu et en Jésus. Et cette affirmation, elle implique, vous voyez, d'avoir touché quelque chose. Alors, est-ce que c'est affectif? Est-ce que c'est scientifique? Est-ce que c'est artistique? Est-ce que... On va voir. Vous voyez, à ce moment-là, je commence à voir qu'il y a sûrement un lien entre l'intelligence et la foi. Et puis, a fortiori, puisque je reçois une parole, je reçois une révélation. Je ne me contente pas d'aimer, mais je donne un nom à celui que j'aime. Oui, c'est pour ça que saint Thomas se développe dans toute une partie de sa somme, savoir quel est le nom propre du Père, du Fils et de l'Esprit-Saint. Pourquoi est-ce qu'il est donné à la Vierge Marie? Pourquoi est-ce qu'il lui dit de donner le nom de Jésus? Le nom. Et le fait même que je nomme Dieu manifeste qu'au fond, mon intelligence reçoit quelque chose. Alors, la question, ça va être de savoir de quel type de connaissance il s'agit. Ou est-ce que c'est un nouveau type de connaissance? Dieu a inventé une nouvelle forme de connaissance. Pour ça, je vais regarder les deux exercices extrêmes de la connaissance, c'est-à-dire la connaissance humaine la plus profonde qui soit, et la connaissance humaine la plus fragile, je vous en parlais déjà tout à l'heure, et la plus débile qui soit. Regardant le problème de Dieu. Je ne veux pas m'intéresser, enfin, on fera une parenthèse sur la connaissance que j'ai dans les médias. Mais ce qui m'intéresse, c'est au fond d'essayer de voir la connaissance la plus parfaite, c'est la connaissance de sagesse. Qu'est-ce que c'est que la connaissance de sagesse? La connaissance de sagesse qui porte d'abord sur la personne humaine, c'est quand mon intelligence coïncide le plus qu'elle le peut avec ce qu'est la réalité, avec ceci est. La connaissance de sagesse, c'est quand je suis tout le temps dans le réel et quand j'agis tel que le réel est, en docilité avec l'ordre qui est l'ordre réel. C'est ça l'ordre de sagesse. C'est-à-dire quand au fond, j'ai commencé à saisir, à entrer avec mon intelligence dans l'ordre qui est celui de la personne humaine. Quand à force de visiter la cathédrale qui s'appelle la personne humaine, je finis par repérer comment est-ce qu'on y entre. C'est vrai, pour saisir comment on se déplace dans une église, il faut beaucoup de temps. Parce qu'il faut prendre le temps de la connaître. Et pour en comprendre toute la richesse, il faut du temps. Mais quand il s'agit de la personne humaine, il faut encore beaucoup plus de temps. Il faut beaucoup fréquenter la connaissance de la personne humaine avant d'en saisir au moins les grands axes. La structure qui a une nef, des transepts, un cœur, une charpente, une crypte. C'est un minimum, ça. Après, vous irez visiter les chapiteaux, les tableaux et tout le reste. Vous voyez, il y a des éléments fondamentaux dans la personne humaine. Et la sagesse, c'est quand j'ai tous les éléments fondamentaux. Je ne les connais pas parfaitement, parce que je ne les connaîtrai jamais parfaitement. Mais j'ai tous les éléments fondamentaux qui constituent la personne. Et que, je dirais, je me déplace, entre guillemets, et non. Je vis avec ce que je suis, en connaissant ce que je suis. Où j'apprends à vivre tel que je suis. Pas dans ma petite personnalité, vous voyez, mais d'abord dans ma structure de personne humaine. C'est, si vous voulez, c'est ce que proposait Socrate. Le connais-toi toi-même, c'est ça. Et la sagesse, c'est quand... Pour connaître au fond véritablement, vous voyez, j'irais tous les éléments fondamentaux, pas qui font, parce que ce n'est pas des parties, vous voyez, mais qui me permettent de connaître la personne humaine, ça implique la découverte. au moins la question de l'existence d'un être premier qui serait source de la personne humaine. Et parce que l'intelligence, elle est faite pour ce qui est, une de ces questions fondamentales, c'est est-ce qu'elle est capable de découvrir quelque chose qui existe au-delà de l'homme et qui est plus que l'homme ? Pas est-ce qu'elle est capable de rêver, est-ce qu'elle est capable de découvrir qu'il existe une réalité ? Et comme telle, l'intelligence ne veut pas d'abord y croire, elle veut d'abord le connaître. Elle veut le découvrir avec évidence. L'intelligence, elle est faite pour l'évidence. Alors, les évidences, je les acquiers lentement. Vous savez, c'est ce qui est très pénible quand on lit Aristote ou saint Thomas, c'est que tout d'un coup, il vous dit, mais ça, c'est évident. Donc, il passe. Et le problème, c'est que des fois, 500 ans plus tard, ou 1000 ans plus tard, ou 2000 ans plus tard, on est toujours en train de se demander pourquoi est-ce qu'il dit que c'est évident alors qu'on ne comprend rien. Vous voyez, c'est le problème, je dirais, pour le coup de l'intelligence, c'est que je progresse par évidence. Parce que plus j'apprends à découvrir, c'est comme quand vous, quelqu'un qui a un métier artisanal très poussé, qui a un coup de main, il fait ça comme si, vous voyez, comme vous marchez par terre, lui il construit des murs, et vous comprenez rien du tout, parce que vous essayez, et vous savez, un exemple où on voit ça, c'est quand il s'agit de monter des bottes de foin à la campagne. Vous demandez à un bon parisien de monter une botte de foin. Et alors, d'abord, il met un temps énorme avant d'y arriver, et puis quand il y est arrivé, il est épuisé. Il lui faut 10 minutes au moins pour eux. Alors que quelqu'un qui est moins fort que lui en fait 10 à la minute. Alors il a beau vous expliquer, avant que vous y arriviez, mais il vous faut au moins 4 ou 5 étés à raison de 3 semaines par été. Pour lui, c'est évident. Pour vous, pas du tout. On a beau vous l'expliquer théoriquement, c'est pas encore rentré. Mais c'est la même chose en philosophie. En philosophie ou dans la recherche de la vérité. Et l'intelligence est faite, si elle en est capable, que cette présence et cette existence de l'être premier, que les traditions religieuses appellent Dieu, deviennent une évidence. Le fait qu'il existe, hein, pas lui, lui, ça ne deviendra jamais une évidence. Parce que je n'ai pas de contact immédiat avec Dieu. Parce que je n'ai de contact immédiat que ce que j'atteins par le sensible, à travers le sensible. Or Dieu n'est pas du domaine du sensible. Et si l'intelligence en est capable, elle est faite pour ça. Elle est faite pour atteindre ce qui existe le plus. Mais pour se reposer dans l'évidence de ce qui existe de manière absolue. Et l'intelligence donc elle est faite pour ne se reposer que dans la découverte de Dieu. Et elle est même faite, si elle en est capable, et ça, humainement, elle n'en est pas capable, mais elle a la soif, c'est très bizarre, elle a la soif de quelque chose dont qu'elle est incapable d'atteindre, qui n'est pas simplement de découvrir qu'il existe, mais de l'atteindre directement. Ça, c'est la soif dernière de l'intelligence. Et je dirais, c'est d'étreindre, de communier à ce réel premier et absolu, qui est source de tout le reste du réel. Elle est faite pour remonter à la source, l'intelligence. Alors déjà, quand elle a découvert la source, elle est dans vous voyez, elle atteint son bonheur. Enfin, l'homme atteint son bonheur, et l'intelligence aussi. Mais c'est étonnant qu'elle a une soif auquel elle ne peut pas répondre par elle-même, qui est de rejoindre cette source. Et de la rejoindre de manière immédiate et plénière. Pas d'y croire. L'intelligence, elle n'est pas faite d'abord pour croire. Alors ce qu'il faudrait développer, mais je ne le fais pas là, c'est comment la sagesse n'implique pas simplement cette connaissance, ça implique une vie, et une vie d'amour et une vie d'adoration qui est selon cette connaissance. Parce qu'encore une fois, si l'éthique, si l'expérience affective de l'amour de la personne et la connaissance cèdent l'une l'autre, c'est évident que la sagesse, elle implique l'une et l'autre. Il n'y a pas de découverte de Dieu sans qu'il y ait une adoration. Oui, il ne faut pas rêver. Ce n'est pas un problème spéculatif, au sens de, c'est pas un problème de laboratoire intellectuel, la découverte de Dieu. c'est un problème de discerner dans le réel la présence d'une réalité. C'est pas un problème de démontrer intellectuellement la logique de quelque chose. On démontre jamais logiquement que quelque chose existe. Ça se démontre pas que quelque chose existe. Ça s'atteint ou ça s'atteint pas. Ça se démontre pas. Mais au sens où l'existence n'est pas une conclusion. Donc ou bien je découvre l'existence nécessaire d'une réalité à travers l'existence du réel et dans l'existence du réel, et autrement dit, ou bien le réel est le reflet immédiat de la présence et de l'existence d'un être premier, ou bien j'y arrive pas. Mais c'est sûrement pas, je vais pas démontrer, ça peut me satisfaire intellectuellement, ça peut me distraire de construire des raisonnements logiques qui me prouvent à moi-même, dans ma propre subjectivité, que c'est assez intelligent de croire à Dieu. Ce que fait saint Anselme, par exemple. Il essaye, vous voyez, pas de s'auto-suggérer, mais de céder de sa logique pour se renforcer dans sa croyance de Dieu. C'est pas bête. Surtout quand vous avez des gens en face qui essayent de faire le travail inverse. Oui. Ça aide de se trouver des arguments, des bons arguments pour croire en Dieu. Mais l'intelligence, elle est faite pour, vous voyez, pour le découvrir, ça. Pas pour se le suggérer. Quand je me le suggère, mon intelligence, elle est toujours un peu frustrée. Alors, à l'autre extrême, il y a la croyance, pas la foi, hein, la croyance. C'est-à-dire l'adhésion à une opinion. Et quand il s'agit de Dieu, c'est une opinion religieuse. L'opinion des traditions religieuses. On me dit que Dieu existe. Et on m'explique les bonnes raisons que j'ai d'y croire. Je ne suis pas capable, parce que j'y comprends rien, parce que ma vie est très confuse, de découvrir grand-chose de l'existence de Dieu. Donc, comme la voie là-haut, elle est, vous voyez, je commence à peine, et que je ne suis pas prêt d'atteindre le terme, c'est intéressant, parce que si vraiment Dieu existe, c'est évident que ça peut avoir des conséquences importantes dans ma vie. Et cette forme de connaissance, qui est très courante, qui est très courante encore pour les deux tiers de l'humanité, les deux tiers de l'humanité croient en Dieu ou en un absolu à cause des traditions religieuses. C'est-à-dire ni par la foi chrétienne, ni par découverte. Hein, tout l'islam, tout l'hindouisme, le bouddhisme, il n'y a pas d'absolu dans le bouddhisme. Et aussi, malheureusement, une bonne partie du christianisme. Quand vous allez dans les pays anglo-saxons, l'exercice de la foi chrétienne, c'est de l'ordre de la tradition religieuse. C'est ni de l'ordre de la foi, c'est rarement de l'ordre de la foi authentique ou de l'ordre de la découverte. C'est vrai, c'est très frappant de voir. Aux États-Unis, le fait que Dieu existe, ça fait partie des lieux communs, si vous voulez. Ça fait partie des traditions. Et vous avez. C'est vrai que c'est ce que disait déjà saint Augustin, une bonne partie de la chrétienté, du monde chrétien, vivait, se servait de la foi chrétienne comme d'une tradition religieuse. C'est-à-dire qu'au fond, il y a des gens intelligents qui disent que Dieu existe. Et donc au fond, c'est raisonnable d'y croire. C'est légitime, hein, on va voir que c'est légitime. Mais c'est pas la foi, ni la découverte de Dieu. Ça ressemble à la foi, mais on va voir la différence. Le problème de cette connaissance, c'est qu'évidemment, ça implique une médiation. Et une médiation sans possibilité de vérification. On me dit que Dieu existe. Et on me dit qu'il faut l'adorer. Et on me montre pourquoi est-ce qu'il faut l'adorer. Et ceux qui m'expliquent ça ont une autorité. Vous voyez, dans cette croyance-là, je m'appuie sur l'opinion pour quelle raison ? C'est très étonnant. Pourquoi est-ce qu'on croit ? Parce que dans certains cas, on peut croire que Dieu existe, encore une fois, pas dans l'ordre de la foi. La foi, c'est je ne crois pas que Dieu existe dans l'ordre de la foi. J'en suis certain, à l'intérieur même de mon expérience. C'est pas du tout la même chose. Là, je ne suis pas certain du tout. Je ne suis pas du tout dans le même de la certitude. Je ne suis absolument pas certain que ce qu'on me dit est juste. Vous voyez, ce qui est typique de la différence avec la foi, c'est quand un bon paroissien vient dire à son curé, je suis désolé. Mais ce que vous dites, ça me semble vraiment pas juste. Je ne suis pas théologien, mais je suis quasiment certain que ce que vous dites, c'est faux. C'est rare qu'ils se trompent quand ils viennent dire ça. Précisément, ça montre que la foi, ce n'est pas du registre de la croyance. Parce que la certitude, l'expérience intérieure de Dieu, enfin si vous voulez, le lien intérieur avec Dieu dans la foi, est un lien de certitude immédiate. On verra, hein, on développera tout à l'heure. Alors vous ne verrez jamais un bon musulman qui vient voir comment ça s'appelle, son imam à la sortie pour lui dire que ce qu'il dit, c'était logiquement pas juste. Parce qu'il n'a aucun moyen de vérifier ce qu'il dit, sauf s'il est plus théologien que lui. Vous voyez, je dirais, dans l'opinion, je ne suis pas du tout certain de ce qu'on me dit. Alors, il arrive que souvent je sois convaincu, c'est pas du tout la même chose. Ce qui est impressionnant, c'est qu'aujourd'hui, le domaine dans lequel on croit le plus de choses, c'est les informations. Je vous parlais tout à l'heure des enfants qui savent tout et qui connaissent rien. Ben, nous, on en est tous là. Vous croyez à l'existence de la fusée Ariane. Vous croyez à l'existence de l'URSS si vous y êtes jamais allé. Vous croyez à l'existence de Boris Eltsine. Vous croyez à quantité de choses. Et vous n'avez aucun moyen de le vérifier. Vous n'avez aucune certitude. On vous a montré des images, on vous a dit c'est Boris Eltsine. Ça correspondait à ce qu'on vous disait dans le journal et à la photo du journal. Mais vous n'avez aucune expérience immédiate. Or, la certitude et l'évidence ne relèvent que de l'expérience immédiate. C'est important, vous voyez, de voir le champ de la croyance chez nous, surtout en Occident, dans les médias, le nombre de choses qu'on croit. Qu'en plus, on a de mauvaises raisons de croire. Parce que normalement, quand on croit, c'est qu'il y a une qualité de la médiation et une qualité de l'affirmation. C'est-à-dire que ça porte sur des choses nécessaires par des gens compétents. C'est pour ça que quand on vous parle de ce qu'a dit Jean-Paul II, il y a toutes les chances que ça soit faux. Parce qu'on n'est ni face à des gens compétents, ni face à des gens bienveillants, vous voyez, et ni face à des gens qui comprennent. C'est typique, le domaine de la foi est le domaine par excellence où toute information a toutes les chances d'être fausse. Puisque je ne peux pas communiquer ce qui relève d'une affirmation de foi sans au moins avoir un regard de sagesse humaine. C'est pas possible puisqu'il s'agit de la sagesse religieuse. Donc toute transmission d'information qui relève de ce que peut dire le pape est fausse si vous êtes face à quelqu'un qui n'a pas un minimum de sagesse religieuse. C'est très simple. C'est pas possible. Il n'est pas compétent. Donc ou il se tait ou il dit des bêtises. Vous ne demandez pas à un plombier de vous faire un cours d'astrophysique. Et l'astrophysique vue par un plombier, ça donne des bêtises. Donc l'enseignement ou le discours de Jean-Paul II ou de quelqu'un qui est dans un domaine religieux ou dans un domaine moral, qui nécessairement se situe au moins humainement dans une perspective de sagesse, est nécessairement fausse quand elle est transmise par quelqu'un qui est de l'ordre de la plomberie dans le domaine spirituel. Quand c'est pas dans le domaine des sous-sols et des parkings. Mais c'est important, vous voyez, d'exercer un jugement critique sur le fait que on fait fonctionner chez nous en permanence la croyance sur des choses qui n'en valent pas la peine, avec des critères de crédibilité qui sont nuls. Parce que, par contre, là où on est très fort, c'est du côté de la conviction. Parce que la conviction, elle est affective.